Ok, donc on prend la page 179, Parasha Mishpatim. Parasha Mishpatim, donc c'est une parasha très terre à terre. On vient de recevoir la Torah dans la parasha de la semaine dernière, dans la parasha Yitro. Et juste après, tout de suite, on passe tout de suite dans la pratique. On donne les halakhot très concrètes qui vont parler de situations a priori qui n'étaient pas encore arrivées dans le désert, notamment l'histoire du Eved Ivri. C'est quoi le Eved Ivri? C'est une personne qui a volé. D'accord? Par exemple, et bon, le cas classique, c'est une personne qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser. Donc, les travaux publics de l'époque, c'est quoi? Ben, c'est qu'il va travailler, il va être esclave de la personne qui l'a volé. Pendant au maximum 6 ans. D'accord? Et après, il sort. Bon. Alors, il y a des... Donc, c'est beaucoup. Justement, on va en parler de tout ça. D'accord? Et on va parler de tout ça, mais avant de parler de tout ça, on va d'abord parler d'une issue assez particulière de cette histoire du Eved Ivri. C'est que la Torah nous dit tout d'abord que si il est rentré seul, il ressort seul. D'accord?
Bokartov.
Donc la Torah nous dit, on va lire ensemble les versets rapidement. Je veux m'arrêter sur le pasuk Vav, mais on va relire les versets depuis le début de la parasha Mishpatim, très rapidement. Donc, et la Mishpatim, ma chère Sassi, bon. Qui tikne Eved Ivri? Lorsque tu vas acheter, donc explique Rashi qu'on n'achète pas un esclave juif, parce qu'un juif ne peut pas s'acheter en tant qu'esclave, ça n'existe pas. Pas qu'un juif d'ailleurs. Ça ne peut pas s'acheter en tant qu'esclave. Rashi nous explique qu'on parle d'une personne qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Shesh Shanim Yavod, 6 ans il travaillera, ou Bajvit, Yetzel Achufshi Chinam. La 7e année, il sortira, d'accord, gratuitement, sans rien payer, il n'y a pas de rançon, ça n'existe pas. C'est pas que il doit rester 6 ans et au bout de la 6e année, si tu payes, voilà ce que. Si ta famille paye, tu pourras sortir. Ça n'existe pas. Même si il n'a pas fini de payer ce qu'il devait. D'accord, il a volé des millions. 6 ans, c'est tout. Im Begapo Yavo, Begapo Yetse. De la même manière, on nous dit, si il est venu. Je suis dans le texte. Alors, c'est écrit que Milot Markimot, lire dans les mots,
ça rend intelligent.
Ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais ça veut dire que ça nous rend plus intelligent. Im Begapo Yavo, Begapo Yetse. Si il est rentré seul, c'est-à-dire qu'il n'était pas marié, célibataire, Begapo Yetse, il ressort célibataire 6 ans plus tard. Imba Alishaou, Viyatsa Ishto Imo. Si il était marié avec une femme, donc c'est une juive, bien sûr, il était marié avec une juive, Viyatsa Ishto Imo, et donc il sort avec sa femme. Ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire que lorsqu'il devient esclave, sa femme ne devient pas esclave, ses enfants ne deviennent pas esclaves, mais par contre, le maître a la charge des enfants, puisque lui, il travaille plus. Donc s'il travaille plus, ben, il faut bien nourrir sa femme et ses enfants. Qui va nourrir sa femme et ses enfants? De l'esclave. C'est lui, c'est le maître. D'accord? C'est pas une super affaire du tout. Vous allez voir, c'est pas fini. Imadona vitan loisha, vialdalo bani uvanot. Maintenant, son maître a le droit de lui donner une femme. Comme ça, il va avoir des enfants. Donc si son maître lui donne une femme, vialdalo bani uvanot, et cette femme va lui donner à cet esclave, des garçons ou des filles. Aïcha vit la Déa, donc la Torah veut bien préciser qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Ce qu'on a pu penser peut-être, les filles vont rester, les garçons vont sortir, ou le contraire. D'accord? En général, à l'époque, c'était les filles qui restaient, les garçons qui sortaient plus rapidement. Donc, on te dit, non, il n'y a pas de différence. Aïcha vit la Déa, qui est la Donéa. La femme et ses enfants, ça veut dire la femme, donc la femme qui est de la femme de l'esclave, et ses enfants, qu'ils ont eu pendant ces 6 ans. Qui est la Donéa, ils resteront au maître, Vehu Yetse Begapo, et lui sortira tout seul. Seul, sans sa femme et ses enfants. Alors, il peut s'agir d'une personne qui était célibataire. Pendant 6 ans, c'est long 6 ans. Il s'attachait à quelqu'un, il s'attachait à une femme et des enfants. Il dit, mais je vous paye, je le reprends. Non, il ne peut pas. C'est la propriété intégrale du maître. Alors bien sûr, le cas du Pasuk Hei arrive tout de suite, c'est pour ça qu'on va s'arrêter. Veim Amor Yomar Eved, d'accord? Si maintenant Amor, hein, donc si l'esclave va dire Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti ve et Banai. D'accord? Pas forcément les trois. Mais il aime un des trois ou les trois. Donc il aime son maître, il est bien, il est à l'aise. Il aime sa femme et ses enfants, ce qui est normal. C'est possible qu'il a un maître qui s'est bien occupé de lui, et que Baruch Hashem, il a la Parnassa, ça lui manque pas, il vit bien. Lo et Tehofshi, je ne veux pas retrouver ma liberté. Je ne veux pas retrouver, laissez-moi tranquille. Je suis bien comme ça. Alors, Veigisho Adonav El Ha'elokim. Donc, le maître doit l'amener El Ha'elokim vers Dieu. Comment l'amener quelqu'un chez Dieu? Il faut le tuer. Non, il ne veut pas le tuer, Chas v'Shalom. On va l'amener chez le juge. D'accord? Elokim, les représentants de Dieu ici-bas, on en a parlé il y a quelques jours, c'est Dieu. C'est le Bet Din. D'accord? C'est les juges. Pourquoi le juge? Mais c'est très simple, puisque c'est les juges qui l'ont vendu. C'est les juges qui ont décidé qu'il devait être vendu en tant qu'esclave. Donc il dit, écoutez, vous me l'avez vendu, je vous le ramène, c'est à vous de décider. Vous décidez, je continue, je continue. Et le Bedin peut dire oui comme il peut dire non. Veigisho, donc les circonstances atténuantes que le Bedin va devoir analyser. Veigisho adonav el ha'elokim, veigisho el ha'delet o el ha'mezuza. Alors, donc une fois que le Bedin a décidé que c'est bon, il peut rester esclave. Veigisho adonav, donc veigisho el ha'delet o el ha'mezuza. Donc là, le maître va approcher cet esclave de la porte ou de la mezuza. La mezuza, ça veut dire le linteau de la porte. Veratza adona vetezno va marcea. Et son maître va poinçonner son oreille avec un poinçon. Va avado leolam. Et là, cet esclave sera esclave à vie. Alors, c'est pas exactement à vie, c'est jusqu'au prochain yovel, jusqu'au prochain cinquantenaire. Parce que dans la Torah, il y a la Shemitah tous les 7 ans, et il y a le yovel tous les 50 ans. Qui fait des cycles de 7 fois 7, 49, plus la 50e année. Voilà. Va avado leolam. Et là, donc, il sera esclave. Puisque pour nous, 50 ans, c'est une éternité. Enfin, ceux qui ont déjà dépassé 50 ans, on considère qu'ils ont déjà passé une éternité. L'ère Olam, pour nous, c'est 50 ans, c'est une éternité. Bon. Très bien. Alors, bien sûr, il faut une Seouda. D'accord ? On dit que Rabbi Yosef, c'est écrit dans la Gemara, Rabbi Yosef, lorsqu'il avait 50 ans, et si je ne me trompe pas, lorsqu'il avait aussi 60 ans, il faisait une fête. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il avait 50 ans, il dit, ça y est, j'ai déjà passé la majorité de ma vie. Baruch Hashem, je suis là.
En vérité, c'est 60.
D'accord ? Oui. Ah, il y a 50, il y en a qui dit 60, il y en a qui dit 50. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il y a le concept de 50, c'est pas rien, 50. Oui, ici l'histoire de Rav Karet. Alors maintenant, on va faire Rashi.
Attends, mais il sera libre au bout du Yovel avec sa femme et ses enfants ou
Ah non, 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 rien du tout, non, non, il sort seul.
Ah, donc c'est rebelote.
Il sort seul.
Bon. Mais quand on parle de ses enfants, ce ne sont pas des juifs.
Ça peut être des juifs.
Non, pas forcément. Ça me fait rappeler une histoire. Je sais pas si on m'a envoyé hier un lien par internet. Il y a un prisonnier, quelqu'un qui était prisonnier pendant 28 ans. En Israël. 28 ans. Il était prisonnier parce que bon, il avait tué quelqu'un pour des raisons politiques, etc. Et hier, il est sorti de prison. D'accord ? Comment ? Raïta ? Il est sorti de prison, d'accord ?
Avromsky,
bon. Il est sorti de prison, il y avait les journalistes. Il voulait qu'on le laisse tranquille, quoi. Il y a personne qui l'attendait. Personne qui l'attendait à la sortie de prison. Et il y avait des journalistes, comme ça, une armée de journalistes qui étaient là en train de vouloir entendre un mot. Et lui, il voulait rien dire. Il bougeait avec ses mains comme ça. Laissez-moi tranquille. Un partant de Shalom Arshav. Bon, c'est la source qu'il y a, c'est sûr, il n'y a pas de... Et donc, il ne laissait pas tranquille. Il courait, il tournait autour de lui. Et il avançait. Et il voulait, il dit, mais, j'ai entendu, ils l'ont dit, dis-nous un mot et on te laisse tranquille. Du style, dis-nous, je suis content, ou je suis pas content, ou je suis énervé. Il a rien dit. D'accord? Ça veut dire, vous allez voir pourquoi on va en parler tout de suite, parce qu'on va parler du sentiment que la personne doit avoir lorsqu'il sort de prison. C'est un peu une prison, cet esclave. Bien que c'est pas vraiment une prison.
D'accord? C'est bien, quelqu'un qui a pas les moyens.
Voilà, très bien.
Bon. Nourri, logé, on s'occupe de ça.
C'est un très bon point ce que vous dites, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Alors, on va faire le Rashi Vav. D'accord?
Excuse-moi, mais pourquoi au Yovel, la femme, si elle est juive, elle sort pas?
Personne sort parce que c'est la propriété du maître.
Même au Yovel ?
Jamais.
Mais l'esclave elle aussi, non ?
Si la femme était esclave.
Ça, c'est
tout d'abord.
Elle dit qu'elle est pas d'accord. Esclave. Elle
est pas... Si, parce que si elle est juive, elle sort au bout de 6 ans.
Elle
n'est pas esclave. Si, la femme ?
Ouais.
Non, sa femme qu'il avait avant n'est pas esclave. Mais là, on parle d'une femme que le maître lui a donnée. Oui. Donc une femme, c'est.
Le maître lui a donné.
Et bah, c'est pareil, c'est la même chose. Cette
elle
femme
est esclave, cette femme.
Cette femme,
elle était.
Non, une femme qu'il a achetée sur le marché.
Mais elle n'est pas juive.
Il faut
préciser qu'elle n'est pas juive.
Elle peut être juive.
Oui, bien sûr.
Et les enfants ne sont pas juifs.
Il y a des cas dans lesquels elle peut être juive. Ça, je ne voulais pas entendre.
Pourquoi il
a une goya ? Il a le droit ? Parce que l'esclave d'un juif prend le même statut qu'une femme pour les mitzvot. On doit le tromper au mikvé et tout, hein, c'est pas rien. C'est pas comme ça qu'on prend un esclave. À l'époque, quand on prenait un esclave, s'il était non juif, s'il est portoricain ou ce que vous voulez, on doit le tromper au mikvé. On doit tromper au mikvé, il prend les mêmes mitzvot qu'une femme, sinon on ne prend pas. Et la Mila, etc.
Ah, il faut lui faire
un non-juif.
Est-ce que le maître...
Même un roumain,
le maître, au bout des 7 ans, en question, des 6 ans, il peut affranchir la femme.
Oui. Ah, s'il veut, il peut. Bien sûr. S'il veut, il peut. Et là, elle décide. Lorsqu'on lui donne sa liberté, comme double nationalité, est-ce qu'elle prend la nationalité juive, la religion juive, ou bien est-ce qu'elle revient à ce qu'elle était avant? Elle décide, elle fait ce qu'elle veut. Double nationalité. D'accord. Bon, alors on va faire Rashi. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter. Vous allez voir un très beau commentaire du Rabbi sur ce Rashi. Veratza de nav et ozno ba marcea. Alors c'est la page 179. Et vous prenez la quatrième ligne. la cinquième ligne, pardon. Veratza Adonav et Ozno. Cinquième ligne de la colonne de droite. Veratza Adonav et Ozno, Bamartzea. Alors vous allez voir ce que Rashi va dire. On va lire ensemble Rashi. A priori, il y a un Rashi très bizarre. On a l'impression qu'il va se prendre la tête sur des détails que sur l'histoire du poinçon. Le poinçon dans l'oreille. Déjà, c'est bizarre, poinçon sur l'oreille. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je croyais que le poinçon sur l'oreille, ça veut dire que l'esclave, il restait attaché à la porte jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, quand j'étais petit, je croyais comme ça. Bon, alors, c'est pas du tout ça. On le met à côté de la porte.
Et maintenant ?
Maintenant, bon, j'ai compris que c'est pas ça. On le fait un poinçon à côté de la porte, c'est tout. Alors, regardez Rashi, dans quel développement il va rentrer. Et justement, le rabbi va nous expliquer après pourquoi Rashi a dû rentrer dans un développement pareil. Veratza dona vetozno bamartia. Alors Rashi nous dit, Ayemanit, Oeno et Lachel Smol. Quelle oreille ? L'oreille droite ou l'oreille gauche ? Je vous dis que c'est la grande question. L'oreille droite ou l'oreille gauche ? Et vous allez voir comment Rashi va essayer de répondre à la question. Alors il dit, Talmud Lomar, Ozen, Ozen, Xera Shava. Il dit, je vais te dire où j'ai trouvé la réponse. Je vais faire un Xera Shava. Xera Shava, ça veut dire que dans l'autre façon qu'on trouve le mot Ozen, et dans un autre verset qui n'a rien à voir, on retrouve le mot Ozen. Sauf que là-bas, c'est écrit explicitement que c'est l'oreille droite. Donc on va faire un Xera Shava, on va le comparer. On va dire, si là-bas, Ozen voulait dire l'oreille droite, ici aussi, ça veut dire l'oreille droite. Neemar kan veratza adonav et ozno. Chez nous, c'est écrit qu'on devra poinçonner l'oreille. Veneemar bametzora, c'est nous ozno ayemanit. Et chez le lépreux, c'est écrit, d'accord, qu'on devra mettre sur le lobe de son oreille. Et là-bas, c'est écrit l'oreille, mais c'est écrit juste après droite. Donc là-bas, oreille voulait dire droite. Ma lealan ayemanit, afkan ayemanit. Je vais un peu vite parce qu'on va développer après. Donc de la même manière que là-bas, c'est l'oreille droite, ici, c'est l'oreille droite. Bon, d'accord. Oreille droite, oreille gauche, on a choisi l'oreille droite. Maintenant, écoutez bien le développement de Rashi. Mara'a ozen, ou mara'a ozen leiratza mikol sha'avarim shebagouf. Mais pourquoi, un nom de Dieu, comme ils auraient dit, sur tous les membres du corps, on a choisi l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a fait l'oreille ?
Ça peut être la lèvre,
ça peut être le nez, ça peut être la tête, ce que tu veux. Pourquoi l'oreille ? Et pourquoi poinçonner ?
Elle écoute.
D'accord ? Pourquoi on donne pas 40 coups de bâton ? Pourquoi tu dois le poinçonner ? Et pourquoi l'oreille est droite ? Alors, Rashi dit, hein, vous allez voir que ça répond pas à la question. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, Ozen zot sheshama al har Sinai lo tignov, cette oreille qui est entendue sur le mont Sinai, tu ne voleras pas. C'est tout frais, c'est la semaine dernière. Ouais. Véalar de Ganav, et qui est parti voler, Tiratza, cette oreille-là, est la droite. Bon, et qu'est-ce qu'on fait des gauchers ? Tiratza, d'accord, cette oreille-là doit être poinçonnée.
Tu devrais le faire au début. J'aurais dû le faire au début.
Bonne question ?
Oui, parce qu'on devient esclave si on a volé,
bon,
quelque part.
Très bien, bonne question. Ve'im morer atmo, de la même manière, si une personne décide de se vendre, Ozen Sheshama Alar Sinai, l'oreille qui entend, alors, regardez le développement que Rashi dit, a priori il rajouterait du tout. Ozen Sheshama Alar Sinai, l'oreille qui entend, donc s'il se vend, parce que là, cet esclave, au bout de 6 ans, il décide de se vendre. Ou bien, on peut avoir une personne se vendre, ça veut dire, il dit, je préfère rester. Il vend sa liberté contre le fait qu'il sera pris en charge. Donc, Ve'im Morer Atmo, Ozen Sheshama Alar Sinai, qui l'Ibne Israël Avadim, l'oreille qui est entendue sur le mont Sinai, que l'Ibne Israël sont et seront mes esclaves, Ve'alar Ve'kana Adon Le Atmo. Dieu, il dit que l'Ibne Israël seront mes esclaves, les esclaves de Dieu. Ve'alar Ve'kana Adon Le Atmo, et cette personne-là est partie se prendre un nouveau maître.
Ouais.
À part Dieu. D'accord? Il est parti s'acquérir un maître. Donc on a touché à la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Tiratza, cette oreille doit être poinçonnée. D'accord ? Bon. Alors, le rabbi pose une question très simple, je m'arrête ici, je vais m'arrêter sur ça. On va essayer de comprendre un petit peu ce que Rashi veut nous dire. Tout d'abord, qu'est-ce que ça nous change si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche ? Franchement. Ça ne change rien.
D'accord ? D'accord ?
Pourquoi Rashi se pose cette question et pourquoi on a besoin d'elle et trouver une réponse ? Il dira, Shabbat, qu'est-ce que ça te change ? La Torah t'a pas dit, c'est qu'elle ne veut pas te dire. Laisse-la tranquille. L'oreille, c'est l'oreille. D'accord ? Alors,
dans la maison.
Laquelle vous voulez.
Si c'est écouté,
d'accord. Laquelle vous voulez.
Les deux,
comme les boucles d'oreille. Laquelle, là, c'est pour le bien. Laquelle, comme l'oreille droite, l'oreille gauche. Ah, on lui demande, laquelle tu veux, la droite ou la gauche. Non, Rashi pose la question, l'oreille droite ou l'oreille gauche. Qu'est-ce qui dérange Rashi? D'accord. Pas seulement ça. On n'a pas l'habitude que Rashi nous fait du midrash. Là, Rashi a fait du vrai midrash. Là. Il a dit, pourquoi on a choisi l'oreille parmi les autres membres? Et il a commencé à dire, l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï qui ne volera pas et qui a volé, on va la poinçonner. Ça, c'est du midrash. Rashi en général est là uniquement pour expliquer le verset. Donc si Rashi explique ça, ça veut dire qu'on a un problème dans le verset. D'accord ? Il y a encore plusieurs problèmes que le rabbi pose, mais je ne vais pas faire trop de problèmes, on va passer directement aux solutions. D'accord ? Et c'est une logique un peu telmudique. Bon. En vérité, Rashi, il a une question. vous expliquer la question que Rachid a. Avec ça, on va comprendre pourquoi Rachid a donné tout ce développement. Oreille droite, oreille gauche. Après, il est parti rajouter le Midrash, qui dit que l'oreille qui est entendue sur le Mont Sinaï, tu ne voleras pas, et qui a volé. Pourquoi Rachid a dit tout ça? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est que Rachid, en vérité, a une question pertinente qui le dérange, parce que, rappelez-vous, Rachid vient répondre aux questions qu'un enfant va poser. Et l'enfant, c'est nous. C'est quoi la question qu'on se pose? C'est pourquoi la Torah a choisi une punition tellement difficile pour cette personne? Pourquoi tu lui poinçonnes son oreille? Et je vais expliquer la question. Cette personne, c'est une personne a priori de qui on devrait avoir pitié. Pourquoi on devrait avoir pitié? Bah parce que, certainement, s'il a volé, a priori, il devait être pauvre. D'accord? Il devait être pauvre, ça veut dire que la chance ne lui a pas souri, et qu'il était obligé, soit de se vendre en tant qu'esclave, ça c'est le pire ça. On a une personne qui va voir un maître, il dit, écoutez, j'arrive pas à subvenir à mes besoins, est-ce que vous voulez, contre ma liberté, vous me prenez en charge? Imaginez le pauvre, cette personne-là, il n'arrive pas à se prendre en charge. Même s'il a volé, même s'il s'est pas vendu, mais on le vend parce qu'il a volé, c'est la même chose. Si une personne vole, c'est parce qu'il a besoin. Et il a tellement besoin, d'accord, qu'il n'arrive pas à se suffire. Il n'arrive pas à se suffire du peu qu'il a. D'accord? Et il n'arrive pas à se suffire du peu qu'il a, il va être obligé de se vendre. Alors la question qu'un enfant va poser, c'est nous l'enfant. Il va dire, bon, je veux bien qu'on le punisse. D'accord? À la limite, on va le punir, on va le garder jusqu'à 50 ans, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on doit lui laisser un signe indélébile sur son corps? Un signe qui partira jamais. Pourquoi on lui fait ça? Tu vois pas que c'est Mskin, le pauvre, c'est pas de sa faute?
C'est un marquage.
D'accord? C'est un marquage, un tatouage. On va marquer quelque chose qui bougera pas. Mais pourquoi tu lui fais ça? D'accord? C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais la question qu'on se pose, ok, c'est pas bien. Mais il y a des circonstances atténuantes ici. On a ici affaire à un bonhomme qui n'arrive pas à se prendre en charge, ou bien qui a dû voler. Vous croyez comme ça, il a volé parce qu'il avait besoin. Alors j'ai pas dit que c'est cachère ce qu'il a fait. D'accord? Mais il a volé, c'est parce qu'il avait pas le choix. Donc de là, écoutez le développement de Rachid, en développant un peu talmudique, c'est entre les lignes. Rachid se dit peut-être qu'en vérité, si on a choisi l'oreille, c'est parce qu'on a choisi le membre qui fait le moins mal. D'accord? Et c'est ça le développement de Rachid. L'oreille, ça fait ce membre, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais ça fait pas très mal, d'accord? D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que quand on va faire des piercings, etc. pour les oreilles, ça fait pas très mal. D'accord? On fait à des enfants. Ben pourquoi? C'est très simple, parce que l'oreille, c'est un membre qui fait le moins mal. Donc Rachid va commencer son développement, il va dire peut-être qu'en vérité, la Torah a choisi le membre qui fait le moins mal, parce qu'effectivement, on a pris en compte les circonstances atténuantes qu'on vient de dire, que le pauvre, c'est pas de sa faute, il a dû voler ou bien il a dû se vendre. Sauf que Rachid, demain, il te dit non. Si tu me dis qu'on prend l'oreille qui fait le moins mal, dans ce cas-là, laquelle est l'oreille qui fait le moins mal, et donc qui marque le moins, laquelle on aurait dû choisir? Celle de gauche. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'entre la droite et la gauche, quand tu demandes à quelqu'un qui est droitier, tu lui dis, on va infirmer un de tes membres. On a pris le moins grave, mais bon, c'est le minimum possible. Tu lui dis la droite ou la gauche? C'est évident, il va choisir la gauche.
Ouais.
D'accord, c'est évident. Or, Rachid a appris d'un verset que c'est la droite. Donc il dit, ah, si c'est la droite, ça veut dire que le raisonnement que je viens de te dire, qu'on a choisi le membre qui fait le moins mal, n'est pas bon. Parce que si c'est le membre qui fait le moins mal, dans ce cas-là, on aurait dû choisir l'oreille gauche. Donc Rachid a compris qu'il y a autre chose. D'accord? Rachid a compris qu'il y a autre chose, il a compris qu'en vérité, ce qu'on a compris, c'est pas bon. Qu'en vérité, si on a choisi l'oreille, c'est pas parce que c'est le membre qui fait le moins mal. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'une fois que Rachid a répondu que c'est la main droite, il part au Midrash. Il vire au Midrash tout de suite. Parce que Rachid se dit, bon, peut-être qu'on a choisi l'oreille parce que c'est celle qui fait le moins mal. Il dit non, c'est pas le cas puisqu'on a choisi la droite. On aurait dû choisir la gauche. Donc si on a choisi la droite, ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est là que Rachid met le Midrash. Il dit, ah, il y a autre chose. Bon, alors l'oreille, c'est pas parce qu'elle fait le moins mal qu'on l'a choisi. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a choisi l'oreille? Et là, écoutez bien ce qu'il dit Rachid. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid nous dit que, en vérité, d'accord, il amène le Midrash qui dit que pourquoi on a choisi l'oreille parmi les autres membres, parmi les autres membres du corps? D'accord? Parce que, on dit, l'oreille qui a entendu au Mont Sinaï, tu ne voleras pas, et a volé, on doit la poinçonner. Alors là, on a la question de qui? Il dit, mais attends. Cette oreille-là, qui est entendue sur le Mont Sinaï, qui ne volera pas, elle a déjà volé. Quand on va la poinçonner? Au bout de 6 ans. Lorsqu'il dit, je ne veux pas sortir.
On aurait dû la poinçonner au début.
C'est pas maintenant qu'il faut le poinçonner. C'est il y a 6 ans qu'il fallait le poinçonner.
Ouais.
C'est là qu'il fallait le poinçonner son oreille. Parce qu'il a déjà volé il y a 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ont volé, qui ont de quoi rembourser? Ceux-là, tu les poinçonnes pas?
Alors qu'il a volé.
D'accord? Eh oui, donc Rachid n'a rien répondu a priori. N'est-ce pas? Rachid n'a pas répondu, c'est quoi cette histoire? D'ailleurs, on a dit, Rachid répond, l'oreille qui entend sur mon Sinaï. On n'a rien répondu. C'est quoi cette réponse? Pourquoi on a choisi l'oreille? Parce qu'elle entend sur mon Sinaï. Ah, c'est une belle réponse, Midrashi, etc. Mais ça répond rien du tout à la question. L'oreille, la, parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas dû le poinçonner au bout de 6 ans, on aurait dû le poinçonner dès qu'il a volé, dès le début. Et pas seulement ça, même s'il a de quoi rembourser. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Alors écoutez bien la réponse de Rabbi, la réponse extraordinaire. Et c'est là comment on voit en vérité que la Torah prend en compte les circonstances atténuantes. On va reparler de cet esclave. Il a volé. Il n'aurait pas dû, mais il a volé parce que certainement il avait besoin. Ou c'était une maladie, il a volé. On va le punir. La Torah, les Chachamim se posent des questions. Ils se disent, pourquoi il a volé ? Est-ce qu'il a volé parce qu'il n'en a rien à faire de Dieu ou parce qu'il a craqué ? En vérité, il en a à faire de Dieu, mais il a craqué, c'est trop dur pour lui. C'est quand même un petit peu la différence qu'on explique dans Shulchan Aruch entre un Moumar l'été Avon et Moumar l'Echachis. Un Moumar, c'est une personne qui a décidé de ne plus faire une mitzvah. Ça peut être soit pour toute la Torah ou soit une mitzvah particulière. Mais il y a deux raisons possibles pour lesquelles il ne fait plus la mitzvah. Soit c'est l'été Avon, c'est par plaisir. Ça veut dire qu'il dit, moi j'ai rien contre Dieu, mais le plaisir de la Vera est plus fort à ce moment-là que la volonté de, que ma volonté de faire la volonté de Dieu. Donc il a craqué. Ça c'est un Moumar l'été Avon. C'est le Moumar le moins grave. Et on a un Moumar l'Echachis. Moumar l'Echachis, c'est celui qui dit non, j'en ai pas envie, d'accord ? J'ai pas envie de la Vera, je peux me retenir et me contenir si je veux. Je le fais pour embêter Dieu. Ça, c'est plus grave. D'accord ? Alors, c'est Shmet. Alors, cet esclave qui a volé, il arrive devant le Beit Din. Il a volé. Ou bien, encore plus grave, je pense, une personne qui veut se vendre en tant qu'esclave parce qu'il n'arrive plus à subvenir à ce besoin. Donc le Beit Din se pose la question, il dit, celui-là, c'est pas bien ce qu'il fait, de subvenir soi-même à ses besoins. Mais est-ce qu'il le fait parce qu'il a craqué ? Il dit, bon, ça y est, j'en ai marre, le voisin d'en face, il est très riche, je vais lui proposer mes services, c'est tout. Il a craqué. C'est pas qu'il a envie de le faire, mais il a craqué. Donc s'il a craqué, bon, il a craqué, dans ce cas-là, on doit pas lui poinçonner son oreille. D'un autre côté, on se dit, peut-être qu'il l'a fait parce qu'il n'en a rien à faire de la Torah, de Dieu, il dit, moi je m'en fiche tant que j'ai de l'argent, c'est ce qui compte. C'est pour ça que le Beit Din ne va pas lui poinçonner son oreille quand il a volé. Parce qu'il dit, on ne sait pas maintenant. On ne sait pas s'il l'a fait. On ne sait pas s'il l'a fait parce qu'il a craqué, ou s'il l'a fait parce qu'il n'avait rien à faire. On ne sait pas. Donc on ne va pas lui toucher son oreille. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'une personne a volé et qu'il a remboursé tout de suite, on ne va pas lui poinçonner son oreille. Parce qu'on se dit, peut-être qu'il a volé parce qu'il a craqué, il a remboursé, ça y est, l'affaire est close. Mais lorsque 6 ans plus tard arrive, et qu'on lui propose sa liberté, ça y est, et n'oubliez pas que lorsqu'on lui proposait sa liberté, le maître devait donner beaucoup de cadeaux à l'esclave pour lui permettre de
redémarrer.
C'est normal. D'accord ? Il avait des mois d'avance. Indemnité de licenciement. Donc on lui permet de redémarrer. C'est-à-dire on lui dit voilà, tu t'es retapé pendant 6 ans, d'accord ? Tu t'es refait. Maintenant on te donne l'argent, tu redémarres. Il devrait le faire. Et là, qu'est-ce qu'il dit l'esclave ? Il dit non. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Là, Kadosh Baruch Hu dit, ah, là, ça veut dire que les mafréa rétroactivement, de là, on va comprendre que rétroactivement, il y a 6 ans, lorsque tu avais volé ou lorsque tu t'étais vendu comme esclave, tu ne l'avais pas fait parce que tu as craqué. Tu l'as fait parce que tu n'en as rien à faire. Ah, tu n'en as rien à faire, ça, c'est très grave.
Comment ça, rien à faire ?
D'accord ? Tu n'en as rien à faire, tu t'en fiches de Dieu. Tu t'en fiches, Dieu, il a dit, c'est interdit, tu n'en as rien à faire. Dieu, il a dit que nous sommes ses esclaves. Sinon, moi, ça ne me dérange pas, tant qu'il y a de l'argent, c'est bon. D'accord ? Ça veut dire comme ça.
On aurait pu dire exactement l'affaire.
Non, deux secondes, j'arrive. Ça veut dire comme ça. Lorsqu'il a volé, écoutez bien comment le rabbi continue. Il continue une logique très forte. Il dit comme ça. Il dit, une personne n'a pas envie que tout le monde sache qu'il a volé. Ça veut dire que si cette personne-là, dès qu'il a volé, tu vas lui poinçonner son oreille, un vieux, on le verra, on dira, celui-là, un jour, il a volé. Ça, on va pas lui faire. Parce qu'on se dit peut-être qu'il a volé parce qu'il a craqué, peut-être qu'il va faire teshuva, peut-être que c'était trop dur pour lui. On sait pas pourquoi il a volé. Mais, cette personne-là, au bout de 6 ans d'esclavage, j'y arrive, au bout de 6 ans d'esclavage, lorsqu'il dit, je veux rester chez mon maître, ça veut dire que, si j'ai volé il y a 6 ans, c'était pas à cause d'une pression financière. C'était pas à cause d'une pression financière, ou si je me suis vendu en tant qu'esclave, c'était pas à cause d'une pression financière. C'était parce que j'en ai rien à faire. D'accord ? Et là, cette personne-là, il sait très bien qu'on va lui poinçonner son oreille, et que c'est un signe qui va lui rester à vie. Il le sait. On lui prévient, on lui dit, écoutez monsieur, vous aurez un signe indélébile qui ne partira pas. Ça ne le dérange pas. Ça veut dire qu'on a affaire à une personne que ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est l'argent, qu'on le prenne en charge. Il n'a pas envie de le prendre en charge. À tel point qu'il n'en a rien à faire d'avoir un signe qui sera visible toute sa vie, puisque l'oreille est toujours visible. D'accord ? Alors là, explique le rabbi, qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là ? On lui dit, ah, là on voit hein, que tu ne l'as pas fait parce que tu as craqué. Parce qu'une personne qui a craqué a des limites. Quand on lui dit, écoute, tu sais, tu vas rester, mais on va te mettre un signe indélébile qui partira pas, qui sera visible, etc. Bon, il va dire, bon, je vais réfléchir. Celui-là, lorsqu'il dit non, je reste quand même, ça veut dire qu'il en a rien à faire, il a pas de Dieu. Il en a rien à faire, il en a affaire de personne. Et que quand il a volé il y a 6 ans, il ne l'a pas fait parce que il a craqué, il l'a fait parce qu'il n'en a rien à faire. Et que même maintenant, il dit, tu vas avoir un signe qui va toute ta vie, même dans 50 ans, lorsque tu sortiras en disant, celui-là, un jour, il était esclave, j'en ai rien à faire. Là, ça montre qu'il y a un problème.
Il est animal.
D'accord ?
Il est animal.
Il est animal, ouais. Et là, on comprend maintenant la réponse de Rashi. Vous savez, moi, j'ai même pas fait tout le Rashi, hein, j'ai fait que le début. Rashi commence, donc je répète la structure de Rashi. Rashi commence, il dit, pourquoi on a choisi l'oreille ? Il dit, peut-être parce que l'oreille est le membre qui fait le moins mal. Sauf que Rashi te dit non. Dans ce cas-là, si on a choisi l'oreille parce que c'est le membre qui est le moins mal, quelle oreille on aurait dû choisir ? L'oreille gauche. Donc c'est pas pour ça qu'on a choisi. Donc c'est pour ça qu'il amène tout de suite, Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui dit « Mara'a ozen leirata mikol shiar evarim shemagouf » Puisque l'oreille n'a pas été choisie, puisque en tant que membre qui fait le moins mal, la preuve, on a choisi l'oreille droite. Dans ce cas-là, pourquoi tu as choisi l'oreille parmi les autres membres du corps ? T'aurais dû choisir un autre membre. Et là, il nous sort cette histoire de Lotignov. L'oreille qui est entre nous, tu ne voleras pas, et qui a volé. L'oreille qui est entre nous, que Dieu est ton maître, et qui s'en va en tant qu'esclave, on va la poinçonner. Pourquoi on ne l'a pas poinçonnée tout de suite ? C'est très simple, parce que sur place, on ne sait pas quelle est sa kavana. Ça répond à ta question ? Je ne sais pas quelle est sa kavana. J'en sais rien. Donc Dieu dit, on ne touche pas. On va lui accorder le bénéfice du doute. On ne touche pas. Peut-être certainement il a craqué. C'est-à-dire que Dieu accepte qu'une personne peut craquer. Par contre, si au bout de 6 ans, on comprend que c'est pas qu'il a craqué, c'est qu'il n'en a rien à faire. Il n'a pas de Dieu, il n'en a rien à faire celui-là. Là, Kadosh Baruch Hu dit, non seulement qu'il n'en a rien à faire, il n'en a rien à faire de garder un signe sur soi, le voleur. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire, qu'il marche dans la rue, tout le monde le voit, on dit, celui-là, un jour, il était voleur, et peut-être qu'aujourd'hui, encore, il est voleur. Il n'en a strictement rien à faire.
Il veut garder sa femme et ses enfants. C'est une raison, ça. C'est une raison,
oui.
Objection, votre honneur.
C'est pas l'argent, ça.
Une bonne question. C'est vrai. Mais, le fait de garder sa liberté doit être plus important que garder sa femme et ses enfants esclaves.
Voilà,
oui. Là, et c'est justement la réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai.
D'accord. C'est comme un employé.
Vous oubliez qu'on parle d'un esclave ici.
Non, il dort.
Non, mais là, le statut d'un employé d'aujourd'hui.
Non, pas du tout. Ah non, c'est un esclave.
Ouais, mais avant.
Il y a un problème. Non, je vais répondre d'abord à la question de M. Benichou. C'est très important de comprendre. C'est que les droits de l'homme, comme ils disent aujourd'hui, c'est les juifs, les droits de l'homme. Le plus important chez un homme, c'est la liberté. Et lorsqu'une personne ne veut pas être libre, il y a un problème. Vous comprenez ? Voilà. Lorsqu'il ne peut pas être libre...
Mais il n'est pas en prison.
Attendez, je continue. Ça, c'est quelque chose qu'il peut dire au Beit Din. Il peut leur dire, écoutez, c'est trop difficile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler à mon maître, de négocier, je paierai, je rembourserai. Ça, c'est autre chose, ça, on discute. Mais lorsqu'une personne dit, Afti, et Adoni, et Ishti, et Banai, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne veut pas retrouver sa liberté. Là, il y a un problème. Parce qu'un juif, on a toujours été des hommes libres. Béné Chorin. C'est quoi un homme libre ? Comment aujourd'hui on fait Pessah alors qu'on est encore en esclavage ? On est en exil. Parce que la liberté, c'est dans la tête. Je voudrais juste finir sur ce point-là. Le Maharal de Prague, il pose la question, il dit comment aujourd'hui, qu'on est en dehors d'Eretz Israël, on peut fêter la fête de Pessah, la fête de la liberté ? C'est comme un prisonnier qui va fêter, qui va dire un jour j'étais dehors.
Ouais. Ça veut rien dire. Je serai libre.
Ou un jour je serai libre. Non, mais à Pessah, on se la joue libre. Le prisonnier, il se la joue libre. Il dit, il y a 2000 ans, un jour mes parents étaient libres. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Alors explique le Maharal de Prague. D'accord ? On l'avait fait sur Shavuot il y a 2 ans. Il explique le Maharal de Prague que le chidouche de la fête de Pessah, le chidouche de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est devenu des hommes libres dans la tête. Et que la chance que Kadosh Baruch Hu a donné à un juif, c'est que dorénavant, où qu'il soit, d'accord, et peu importe la situation dans laquelle on l'a mis, il sera toujours libre dans sa tête. Et donc là, le fait de vouloir rester esclave, ça va à l'encontre, d'accord, de cette base du judaïsme, qu'un juif, il doit être libre dans sa tête, libre de faire ce qu'il veut, le libre arbitre. C'est très important chez nous. Il va à l'encontre de ça, Kadosh Baruch Hu dit ça, on laisse pas passer. Alors, ça ne laisse pas passer. C'est pas normal qu'il ait décidé de rester libre. Mais M. Bichu, vous avez une question ?
Oui.
J'espère que j'ai répondu à la question, mais bon, réfléchissez.
Je plaide pour que cet esclave, je m'inscris, objection, votre honneur, cet esclave,
au départ, ça peut être
au départ, il a choisi ce statut d'esclave.
Oui.
Mais peut-être qu'il se disait,
il a choisi. Est-ce qu'il a vraiment choisi ?
Peut-être qu'il se disait, de toute façon, dans 6 ans, je m'en vais. Je me barre.
Je sais pas si
et je dis que le fait qu'il était nourri, logé, on lui a donné une femme, on lui a donné machin, eh ben on lui a cassé son libre arbitre. On l'a entraîné dans cet état-là, Et à la fin, il est le dépendant. Et après, on lui dit, va-t'en. Je dis qu'il y a une trahison.
Alors, j'ai compris. C'est une bonne question. J'aurais pu poser cette question. Ah, oui. Je vous dis comment il répond à la question. Très simple. Il dit comme ça. Il dit, normalement, une personne doit avoir honte du fait qu'il a volé. Et je pense que ça va répondre aussi à votre question. Enfin, c'est un deuxième élément. Une personne doit avoir honte qu'il a volé. Et lorsqu'il est en esclavage, il devrait attendre impatiemment de sortir de l'esclavage. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il marche toujours avec son maître. Et les gens, ils le voient. Et qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois? Les gens, ils disent, t'as vu, celui-là, il a volé, alors pourquoi il est devenu esclave? Donc ça veut dire qu'il aspire à une seule chose.
Mais il n'est pas encore poissonné, les gens, ils peuvent pas savoir.
Non. Bien sûr qu'ils savent, ils le voient avec lui. Qu'est-ce qu'il fait là, toujours avec lui? Ça se sait qu'il est son esclave. Il doit aspirer à une seule chose, c'est retrouver sa liberté. Pas un seul instant, il ne pense pas à sa liberté, parce qu'il a honte de son vol. Il a honte qu'on le regarde comme un voleur. C'est pas seulement qu'il a honte d'être dépendant. Il a honte d'être regardé comme un voleur. Lorsqu'aujourd'hui, au bout de 6 ans, il montre qu'il est prêt à rester chez son maître et qu'il n'a plus honte d'être un voleur, il vient de prouver quoi? Qu'il n'a pas honte d'être un voleur. C'est très grave.
Ça peut être celui aussi dont la maison était lépreuse, il a tout perdu, et il s'est vendu, il a rien volé.
Oui, pareil. D'accord. Alors pareil, cette personne-là, il s'est dit, bon, je vais me refaire une santé, je vais essayer de
relancer. Et dans six ans,
voilà, je suis parti, on aura des cadeaux.
Mais
ça veut dire qu'à chaque instant, quand il se regarde devant la glace, il se sent mal. Il est pas bien, j'ai rien à faire ici.
On est d'accord.
Je vais répondre à sa question, deux secondes. Il est mal, il veut sortir d'ici.
D'accord. Mais moi qui suis un peu intéressé, tu sais ce que je vais faire?
Alors deux secondes.
Regarde comme c'est bon ce que je te donne à manger.
Il va lui mettre une belle femme,
un machin, etc. Au bout de deux ans, le mec il dit, moi je vais partir,
pour éviter que les gens glissent vers la facilité. Pourquoi ce rite-là, c'est pas...
Oui, le fonctionnaire d'aujourd'hui,
ça répond à la mairie de Paris, justement. C'est bourré de fonctionnaires qui sont là. 35 heures par semaine.
Un point, je voulais rajouter, que Mara explique. Que le Bed Din a son mot à dire en tout ça.
Par moi.
Il commence.
D'accord. Attention, c'est important ce que je vais vous dire. Le Bed Din a son mot à dire en tout ça. C'est-à-dire que si on voit clairement que le maître a abusé de son esclave, tu sais, il lui a mis une très belle femme, etc., pour s'assurer qu'il va...
D'accord. Oui, parce qu'il est fait compétent, le gars. Hein.
Parce qu'il va se dire, je veux de la main d'œuvre pour 50 ans.
Bien sûr.
Donc, il va mettre une belle femme, il va investir, d'accord.
Est-ce qu'il peut refuser, sachant que après il doit les abandonner?
Non, il n'a pas le droit.
Est-ce qu'il peut refuser?
Non,
ça
il n'a pas le droit.
Non.
C'est très très dur. Parce qu'il ne doit pas s'attacher à ses enfants, ça veut dire. C'est très très dur.
Ah ben oui.
D'accord.
C'est pas ça qui est dur. Il n'y avait pas de moyen de contraception
à l'époque.
C'est
une barrière que la Torah fait.
Ah, il n'y avait pas de moyen.
Même si ça existe, on ne lui donne pas.
Oui, mais il faut encore être enceinte. Attends.
Mais
encore, ça marche pas tous les coups. Mais c'est pas à 100%.
Il aurait dû dire un mot.
Non, c'est la question. Justement.
Quelle est la question?
Pourquoi je te pose la question? Je te dis, là je suis molle. Est-ce que c'est l'oreille droite? Ça veut dire quoi l'oreille droite? Je réponds à ta question. Est-ce que tu remarques la différence? Comment Rachid dit la droite ou bien seulement celle de gauche? Pas la gauche. Parce que celle de gauche, ça veut dire celle qui fait le moins mal. Il dit, est-ce que c'est ma droite? Ou est-ce que c'est celle de gauche, celle qui fait le moins mal? Donc en d'autres termes, est-ce qu'on a choisi l'oreille parce que c'est le moment qui fait le moins mal? Celle de gauche, pas la gauche, celle de gauche.
C'est pas la droite ou la droite et la gauche?
Non.
Ça veut pas dire ça?
Non, pas du tout. Ayemanit, la droite, c'est ma droite. Oh et non, et là, je suis bien seulement celle de gauche. Ça veut dire qu'on a choisi celle qui fait le moins mal.
Si c'était la gauche,
physiologiquement, on ne peut pas dire que l'oreille gauche entend moins et que l'oreille gauche fait moins mal.
C'est psychologique. C'est clair que c'est psychologique.
Faudrait... Non,
surtout que quand il revient sur ses pas pour rentrer dans la maison de son maître, il va rentrer et la maison elle est à droite.
Psychologique
en pensant que ça va être moins voyant.
Mais c'est surtout symbolique. C'est surtout symbolique parce que le poinçon, on sait très bien que le poinçon, il va guérir.
Alors
ça va guérir, il aura un trou, mais bon. Et il aura, je veux dire, ça, il continuera à vivre normalement.
Attention,
on va pas le faire...
Écoute, bien avant ça, les tribus barbares et tout ça, marquaient les esclaves par les... Et aujourd'hui encore, on marque les vaches.
Bon, ouais. Peut-être si on le fait, c'est pas de notre faute.
Hein?
Nous, on marque... Nous, on marque seulement dans un cas extrême.
Dans les champs, ils ont des...
Mais même les chiens...
Nous, on marque seulement dans un cas extrême, ici. C'est un cas extrême, là. C'est que la personne a prouvé qu'il ne veut pas de liberté. Et ça, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus grave.
Les vautours espions d'Israël,
ils sont marqués aussi. Le vautour l'esclavage, on en sort.
Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus grave que de refuser sa liberté. On doit être libre dans la tête.
Je peux dire quelque chose? Pourquoi on ne dirait pas? Je comprends pas pourquoi. En plus, Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Il n'y a pas de punition. Pourquoi on ne dirait pas que pour éviter un sentiment naturel, qu'un homme s'attache à son maître, qu'un homme s'attache à sa femme, ou qu'un homme s'attache à un enfant, n'importe qui peut s'attacher à ses trois animaux. Hein. Alors on lui met un rite à la sortie pour qu'il prenne conscience de s'il veut rester, les conséquences que ça a. On lui met un rite qui est assez lourd et qui le fasse ressembler à un animal.
C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que
on assimile ça à une punition. C'est que la Gemara.
Parce que pour lui dire que ta femme et tes enfants, ce que tu as eu, c'est du passé. C'est des esclaves. Tu n'as plus rien à voir avec eux.
Ah. Non mais c'est ta femme.
Mais oui, c'est ça. Non, attendez. Mais non, c'est pas sa femme. C'est une esclave. C'est pas sa femme, c'est une esclave.
Oui, mais il a eu des sentiments après.
Non, c'est
rien.
C'est rien qui est ce que
tu as eu. Une grosse patronne.
Non, mais justement. Le maître, il lui a dit, tu fais des gosses avec elle. Excusez-moi. C'est tout.
Mais après, il peut avoir.
Oui. Ça veut dire que c'est attaché à l'état d'esclavage.
Voilà.
C'est attaché à l'état d'esclavage. C'est un problème. Mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la Gemara nous dit clairement que le Beit Din a son mot à dire. Retenez ce que je viens de vous dire. Le Beit Din avait son mot à dire.
Il a une belle femme.
Mais ça veut dire que si, non, ça veut dire que si le Beit Din arrive à prouver que le maître a abusé de l'esclave, d'accord?
Dans le sens, il lui a trop donné?
Non, dans le sens, il s'est assuré pour qu'il s'attache à cette femme pour que, au jour J,
il s'en va pas. C'est une tactique.
C'est une tactique. Tu mets une belle femme pendant 5 ans, après qu'il ait 6 ans, elle partira pas.
Eh ben, on le met au prud'homme.
Une belle femme.
D'accord?
Autrement dit, s'il a une belle femme.
J'ai pas dit ça.
Il ne sort pas.
J'ai pas dit ça.
Il sort.
Non,
j'ai
pas dit ça. Tout, il met
j'ai dit que
ça peut être un piège du patron.
J'ai dit que ça peut être un piège du patron et que le Beit Din a son mot à dire.
Pour garder son employé.
D'accord?
Il
a son mot à dire. Mais de manière générale, on ne doit pas s'attacher. Il faut pas oublier que, bon, excusez-moi, mais c'était là pour le maître le voit comme une machine à faire des enfants, parce que les petits enfants seront les esclaves aussi. D'accord? C'est comme ça qu'on voit les choses à l'époque.
C'est un
élevage d'esclaves. C'est comme ça qu'on voit les choses. Donc il ne doit pas s'attacher à cette. Il doit avoir une seule aspiration quand il se regarde devant le miroir. Qu'est-ce que je fais là? Je les connais pas. Je veux pas dire. Je veux sortir.
On peut pas assimiler im par losk. Au lieu de traduire im dans si.
Quel im?
S'il sort, si un évad ivri au départ.
Mais im amor?
Voilà, im, non. Ouais.
Hein, im adonav. Pour parler d'amour, on dit amor. Amor yoma.
Im adonav viten lo isha.
Mais amor.
On peut pas le traduire par l'offre. On peut pas le traduire par l'offre au lieu de traduire par
l'offre.
Parce que le sentiment qu'a le juif pour son maître, sa femme et ses enfants, c'est quelque chose de naturel. Ça viendra. Donc c'est pas si conditionnel.
Rachid nous dit, je suis un rechut beyado. Viendra bon. C'est que le maître a le droit de le donner.
Il doit divorcer aussi.
Mais attention, on n'a pas besoin de divorcer. Il n'y a même pas besoin de divorcer. Hein.
Oui, il n'y a pas de kidouchi.
Il n'y a pas de kidouchi, il n'y a rien.
Ishto,
c'est marié.
C'est de l'élevage.
C'est de l'élevage, voilà.
Non, mais il a fait un acte de mariage.
Non, pas du tout. Rien. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. D'accord. Mais attention, le Beit Din a son mot à dire, voilà.
Non, mais l'idée, elle est bonne. Cette idée-là, de dire la liberté,
ouais.
Les esclavagistes, c'est la symbolique de l'oreille. Les États-Unis, c'est comme ça aussi.
Avoir choisi l'oreille.
Il est en fait seulement parce que c'est
moi-même. Moi-même. Ça fait pas longtemps.
Parce que c'est visible, d'accord. Et parce que c'est l'oreille qui a entendu, tu ne voleras pas. D'accord. Et qui n'a pas entendu, enfin, qui a entendu, mais qui n'a pas compris, intégré. Oui, alors, ça fait